défi de chez nous.
Êtes-vous au courant de la situation socio-économique du Burundi?
La part de l'État dans le développement de ce secteur?
Et quel est le rôle du citoyen?
Suivez Défi de chez nous, le magazine socio-économique de la Synergie des radios
Inzamba Agathe Kakawe, RPA Idri Banyagihugu et la télévision Renaissance. Défi de chez nous, rendez-vous chaque dernier jeudi du mois sur nos ondes.
Nous sommes jeudi 27 juillet 2023, c'est le magazine Défi de chez nous, vous l'avez sans doute entendu. Merci pour votre fidélité, bienvenue à notre magazine consacré aujourd'hui sur le phénomène d'abus sexuels en milieu scolaire, un crime qui tend à se généraliser dans tout le pays et qui n'est malheureusement pas puni. Pourquoi cette situation? Les éducateurs qui prennent actuellement le devant dans les abus sexuels contre leurs éduqués. Quelles sont les conséquences et qu'est-ce qui devrait être fait pour redonner de la valeur à l'école, limiter et éviter ces conséquences? Les réponses à ces questions, c'est dans ce magazine, la Synergie des médias RPA et Wigawanyagihugu, Inzamba Agathe Kakawe et la Télé-Renaissance a approché des activistes des droits de l'homme, des parents et un expert en éducation pour nous aider à répondre à ces questions. Au micro, vous êtes avec Inès Kakiza, encore une fois, bienvenue. Les abus sexuels contre des jeunes adolescentes dans les milieux scolaires constituent une triste réalité au Burundi. Parmi les auteurs, on cite les enseignants, pire, les directeurs d'école. Souvent, ces derniers jouissent d'une impunité totale sous la couverture des responsables administratifs et du parti au pouvoir, le CNDD-FDD. Pour débuter le magazine, revenons sur un cas récent de la commune Nega en province Kirundo. Un cas qui a dominé l'actualité, où la victime a été emprisonnée. Le chef de l'État a haussé le ton avant que la ministre de la Justice prenne des sanctions disciplinaires au juge qui avait emprisonné la victime. Le point avec Karine Doussavé.
Nous illustrons cette situation de viol dans les écoles par deux exemples récents. Celui d'une adolescente Christine Daishimiye, élève en troisième année de langue au lycée communal Mugendo, en commune de Nega, dans la province de Kirundo. La jeune fille a reçu à maintes reprises des demandes d'entretenir des relations sexuelles avec le directeur de l'école, Oscar Nemeimana. Celui-ci n'a pas cessé de menacer cet élève à travers des messages téléphoniques. Elle a décidé de porter plainte à la direction communale de l'enseignement et à l'administrateur de Nega, mais rien n'a été fait pour sécuriser cette mineure. Ce qui a étonné plus d'un, la jeune fille avait été condamnée par le tribunal de grande instance de Kirundo pour divulgation d'un secret professionnel sur plainte de ce même directeur. Elle a passé quelques jours dans la prison avant qu'elle ne soit libérée le 16 juillet 2023. Le chef de l'État lui-même s'est étonné de cette mesure du tribunal de grande instance de Kirundo.
Dites-moi, quand un élève fraude lors d'un examen, il est accusé de divulguer le secret professionnel. Là où un enseignant viole une élève et cet élève est inculpé, c'est ce que je vois aujourd'hui. Je ne mens pas. Quand un enseignant abuse une élève, vous dites que cet élève est coupable. Comment cela est possible?
La ministre de la Justice, de son côté, semble banaliser l'affaire et juge de TGI Kirundo a été distrait en prenant une telle décision. Les trois juges qui ont décidé l'emprisonnement de cet élève ont été finalement suspendus de leurs fonctions pendant 6 mois. Oscar Nemeimana, lui, serait dans les bonnes mains des responsables du parti CNDD-FDD à Kirundo en attendant que les poursuites judiciaires cessent. Le deuxième exemple est celui de l'emprisonnement d'une secrétaire au lycée technique Christ Roi de Gitega pour avoir dénoncé le directeur de cette école, père Laurent Nakarutimana, d'abuser sexuellement les adolescentes de ce lycée. Là aussi, les organisations de défense des droits humains n'ont cessé de dénoncer l'inertie de la justice et l'influence du parti CNDD-FDD pour protéger ce prêtre et réclament toujours justice pour cette syndicaliste qui ne plaide que pour le bien-être des enfants. Emilienne Sibomahana a été condamnée à 5 ans de prison et une amende de 5 millions. Elle est accusée de dénonciation calomnieuse. Les défenseurs des droits humains regrettent qu'aucune enquête sérieuse n'a été faite sur le présumé accusé d'abuser les adolescentes du lycée technique Christ Roi de Gitega.
Merci Karine Doussavé. Les défenseurs des droits de l'homme déplorent l'inaction de différents organes qui devraient protéger ces enfants. Maître Jeanne d'Arc de Lignana, présidente du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, situe les responsabilités dans cette situation à différents niveaux, de la haute gouvernance du pays aux citoyens lambda.
Aujourd'hui, le bourreau est devenu celui qui a plus de droits par rapport à la victime. Je tiens à signaler que les milieux scolaires, ce sont des milieux qui devraient être protégés, non seulement par les autorités de l'école, mais aussi le gouvernement. Mais aujourd'hui, on se rend même compte que les personnes qui sont en charge de ces enfants ne prennent pas du tout en considération leur responsabilité de protéger ces enfants qui sont dans les milieux scolaires dont ils ont l'autorité de protéger. Autre chose, c'est qu'on se rend compte que même les parents commencent à désespérer, je dirais, n'ont plus la voix pour dénoncer ces violences dans les milieux scolaires. Ce qui est encore plus déplorable, ce sont des organisations qui se sont donné la vocation de protéger les droits des enfants. Malgré ces augmentations des abus sexuels à l'égard des élèves, on aperçoit beaucoup que ces organisations n'osent pas dénoncer ces violences. Et ces enfants, ces élèves, ils ont besoin qu'il y ait des gens qui puissent plaider pour leur cause. Enfin, c'est toujours lancer un appel vibrant au gouvernement du Burundi en rappelant que ces enfants sont des enfants qui devraient être protégés. Ce sont des enfants qui, aujourd'hui, sont en train d'éduquer dans une atmosphère qui est malsain, avec des preuves que, réellement, le gouvernement, le pays ne peut pas du tout les protéger. Et ça, c'est pour eux, mais pour toute la population, un signe que, réellement, il n'y a rien qui va dans notre pays.
Et que disent les parents ? La Synergie a recueilli quelques avis.
Défi de chez nous, parole aux auditeurs.
Les parents qui se sont entretenus avec la Synergie des médias s'insurgent contre cet outrage sexiste qui porte atteinte à la dignité de l'éducation au pays. Ils appellent les élèves à la dénonciation des auteurs et à la justice d'intervenir contre tous les auteurs du harcèlement sexuel, car ceux-ci sont des criminels. Suivez-les.
Premièrement, quand l'élève est à l'école, les enseignants et le directeur sont considérés comme leurs propres parents. Mais ce qui est déplorable, c'est d'entendre qu'un parent tente de violer sa propre fille. C'est très dommage et c'est très honteux. Nous demandons alors à ces éducateurs qui n'ont pas servi à leur mission d'être des vrais pères, d'être des vrais parents. C'est là où les élèves se sentiront à l'aise et pourront suivre normalement les cours et auront ce qu'ils souhaiteraient avoir, donc l'intelligence, les points. Sinon, cela pourrait être à la hauteur ou à la base des échecs scolaires. Et concernant l'administration et la justice, nous demandons avec insistance au ministre de l'Éducation nationale, au ministre de la Justice, d'user de leur force afin d'éradiquer cette attitude qui tente à faire échouer les élèves. C'est dommage d'entendre que c'est lui ou celle qui a voulu porter secours aux élèves du Christ roi de Gitega, au lieu d'être admiré ou d'être soutenu, il a été mis en prison. Alors qu'il n'y a aucune enquête qui a été menée par la police ou la justice. C'est dommage.
Un responsable d'établissement doit normalement briller par le leadership sans faille. Un exemple pour ses collaborateurs ou subordonnés. Un éducateur est généralement chargé de dispenser une formation intellectuelle et humaine aux élèves. C'est quelqu'un qui remplace normalement les parents quand les élèves sont à l'école. Depuis longtemps, un enseignant était considéré comme un modèle pour la société, mais malheureusement ce n'est plus le cas aujourd'hui pour certains. Ces enseignants qui sont encore dans la bonne voie doivent se lever comme un seul homme sans considérer quoi que ce soit pour dénoncer leurs collègues qui entachent leur bonne image en abusant sexuellement leurs élèves. La secrétaire au lycée Christ le Roi de Gitega qui a osé dernièrement dénoncer son directeur, même si il est en train aujourd'hui d'en payer les pots cassés, doit servir d'exemple à ses enseignants patriotes. Oh, j'appelle les syndicats des enseignants et les défenseurs des droits des enfants à conjuguer leurs efforts pour combattre les abus sexuels qui se commettent en milieu scolaire. Ils doivent aider les victimes à avoir des avocats. Ils doivent tout faire aussi pour que les présumés coupables répondent des faits dont ils sont coupables.
Aux élèves, en tant que parents, je les inviterai à dénoncer chaque fois ces enseignants et ces directeurs des écoles qui, à tout prix, cherchent à coucher avec elles, alors que cela n'étant pas dans leurs attributions, parce que le devoir qui leur est dévolu n'est que l'éducation de ces enfants, et pensez tout. Et du côté des directeurs des écoles, je les invite à faire correctement leurs devoirs parce que ils ne sont là que pour éduquer les enfants, leur faire des connaissances, les façonner pour que dans le futur ils soient utiles pour la nation et mettre de côté pareilles pratiques d'ailleurs qui relèvent de la bassesse. Et à la justice, j'inviterai les magistrats à accomplir correctement leurs tâches et à punir sans complaisance tout ancien qui se sera révélé coupable de pareils abus dans les milieux scolaires.
Et quelle est la lecture des experts en éducation? Place à l'invité du magazine.
L'invité.
L'invité.
Jean-Gabin Néwoutse, expert en psychopédagogie, commence par nous rappeler la place d'une école dans la société et les relations qui devaient exister entre les élèves et leurs éducateurs. Une relation qui doit être de confiance, explique-t-il.
L'école, c'est le lieu bien sûr d'acquisition des savoirs, c'est le lieu aussi de socialisation pour les jeunes, c'est le lieu d'apprentissage et de développement de façon générale, surtout pour les enfants, les adolescents, c'est vraiment des lieux d'apprentissage et de développement sur tous les plans, que ce soit sur le plan cognitif, sur le plan social, et sur le plan socio-affectif, sur le plan identitaire. Donc, c'est l'école, c'est un endroit où, en principe, les enfants, les adolescents sont confiés à des acteurs éducatifs qui doivent en prendre soin, s'assurer qu'ils réussissent sur le plan scolaire, mais également sur le plan aussi éducatif. Donc, on va parler de réussite scolaire et de réussite éducative. L'école, c'est l'endroit, le deuxième endroit où l'enfant passe, où le jeune passe le plus de temps. Donc, plus de 180 jours par année. Et donc, c'est un lieu très, très important pour le développement et l'apprentissage des élèves. Et donc, ce qui veut dire que, normalement, les relations entre les éducateurs, que ce soit les enseignants ou d'autres personnes en autorité à l'école, c'est des personnes normales qui doivent être inspirantes. C'est des personnes qui doivent être rassurantes, où l'enfant sente que s'il a un problème, s'il a un besoin quelconque, qu'il peut se confier facilement. Et donc, si cette relation n'est plus teintée de tendresse, de sentiment de sécurité, eh bien, à ce moment-là, toutes les facettes du développement de l'enfant peuvent être affectées, et à forte raison lorsqu'il s'agit des violences à caractère sexuel. Vous imaginez un enfant qui est en plein développement, qui se fait abuser par exemple, par une personne en qui cet élève avait confiance, vous comprenez que ça devient très très grave.
Pour le psychopédagogue, ce comportement des éducateurs est lié à la situation qui prévaut dans le pays. Les années de crise ne cessent de déchirer la société burundaise, ce qui touche aussi aux valeurs. Et les conséquences de ces abus sexuels touchent en premier la victime, mais elles n'épargnent pas aussi le pays dans son ensemble.
Ce qui est évident, moi je pense que, entre autres, on voit quand même qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses qui ont changé au niveau de l'école. Mais aussi, on voit que dans notre pays, il y a une crise profonde, une crise des valeurs qu'il faut pas négliger. Les abus sexuels traduisent aussi des abus de pouvoir. Et je crois aussi que quand on regarde la situation dans laquelle se trouve notre pays, on voit qu'il y a une pauvreté sans nom. La paupérisation, en fait, ça amène beaucoup, beaucoup aussi de problèmes. Mais je dirais que globalement, la crise de valeurs, et qui est très, très profonde, et à tous les niveaux. J'entends souvent beaucoup, beaucoup de cas d'abus ou, par exemple, des personnes en autorité qui devraient normalement inspirer confiance auprès des élèves sont les premières personnes a franchi le Rubicon, des choses qui étaient jadis marginales. Aujourd'hui, c'est comme si ça allait dans la normale des choses. Et surtout, quand on sait que c'est des enfants qui sont en apprentissage et en développement, ça c'est encore pire. Comment voulez-vous, par exemple, que les enfants aient conscience dans la société? Parce que c'est un échec de la société aussi. Il ne faut pas penser que l'école, c'est un îlot. Il est situé aussi dans une société. Donc, ce qui se déroule dans la société, que ce soit au niveau de la gouvernance sociale, la gouvernance politique, la gouvernance scolaire, tout a des conséquences sur l'évolution de nos sociétés. Et ça a des conséquences aussi sur les contextes dans lesquels les enfants se développent aussi. Donc, d'abord, les conséquences sur les enfants eux-mêmes. Un enfant, évidemment, qui est abusé sexuellement, ça a des conséquences sur son estime de soi. Ça a des conséquences sur son cheminement scolaire, la motivation à l'apprentissage. Donc, à différents niveaux, la vie de l'enfant est perturbée. Elle est perturbée. Et surtout quand c'est fait par des personnes en qui l'enfant devrait avoir conscience. Servir de modèle à l'enfant, c'est catastrophique pour l'avenir de l'enfant. Donc, son avenir peut être compromis, surtout si on est dans des cultures où les enfants n'ont pas d'espace où s'exprimer. S'il n'y a pas de structure pour les accompagner, parce qu'après tout, ça donne aussi un certain traumatisme, dans une certaine mesure. Et donc, s'il n'y a pas d'espace où les enfants peuvent s'exprimer, peuvent être écoutés, peuvent être entendus, les conséquences sont encore néfastes. Ça peut les affecter dans leur profond être hein, et à occasionner une sorte de mal-être qui peut amener même à des situations de suicide. Ça peut amener aussi à l'abandon. Ça veut dire qu'il y a des enfants qui peuvent abandonner l'école.
Un problème de société exige des actions musclées visant aussi l'ensemble de la société. Jean-Gabin Nebouté parle des lois qui protègent les enfants et punissent les auteurs, mais aussi des mécanismes de suivi des victimes pour limiter les conséquences dans leur vie.
À partir du moment où le problème devient systémique, là, ça veut dire que les actions doivent se faire aussi à différents niveaux. C'est un problème de société. Donc, ça veut dire que pour s'y attaquer, il faut aussi commencer par le haut. Est-ce que, par exemple, il y a une loi dans le pays qui vise à prévenir et combattre les violences à caractère sexuel dans les écoles primaires et secondaires? Ça, c'est un aspect qui devrait être là aussi. Est-ce que, par exemple, les écoles ont des plans qui sont mis en place pour justement prévenir et lutter contre les violences à caractère sexuel, contre les abus sexuels? Ces plans, normalement, ils doivent impliquer les différentes parties prenantes aussi, dans l'environnement de l'école, les plans d'intervention aussi pour les enfants qui en sont victimes. Qu'est-ce qu'on met en place pour soutenir, par exemple, les victimes de ce genre d'abus? Est-ce qu'ils sont accompagnés? Est-ce qu'ils sont abandonnés à eux-mêmes? Est-ce qu'on a, par exemple, des professionnels qui écoutent les enfants? Est-ce qu'il y a des endroits à l'école où les enfants peuvent aller se confier? Et à qui l'enfant peut-il aller se confier et être écouté, être compris dans la confidentialité? Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que si c'est quelque chose qui est fait à la place publique, il y a aussi des dommages qui peuvent venir des pères d'autres groupes d'enfants. Et comment ça va être géré? Et surtout actuellement, aller aider les réseaux sociaux, c'est encore plus problématique. Parce qu'un enfant peut être abusé, c'est mis sur la toile, vous comprenez que déjà son identité est affectée dans une certaine mesure aussi. La problématique est très complexe. Est-ce que les enseignants, les acteurs scolaires sont formés? Il faut aussi qu'ils soient formés pour ce genre de choses-là. Mais aussi au niveau communautaire, les parents ont leur rôle à jouer. Est-ce qu'un enfant qui arrive de l'école, qui a connu un abus, qui parle, qui se confie, est-ce que l'enfant est écouté? Que font les parents? Est-ce que les parents aussi, peut-être que la sensibilisation aussi doit se faire au niveau des parents. Est-ce que l'éducation, par exemple, l'éducation à la sexualité, est-ce que c'est quelque chose qui est fait ou c'est quelque chose qui est tabou? Donc tout ça aussi, c'est des aspects qui doivent être abordés de fond en comble. C'est une responsabilité sociale aussi, dans une certaine mesure.
Et voilà, c'est sur ces propositions de solutions données par l'expert en psychopédagogie Jean-Gabin Nebouté que nous clôturons notre magazine de ce mois de juillet 2023. Comme vous l'avez entendu, la multiplication des cas d'abus sexuels en milieu scolaire est en quelque sorte un échec de la société. Ces crimes se multiplient car l'administration ne parvient pas à punir les auteurs, donc un échec d'un pays à protéger ses enfants. Une situation qui a de graves conséquences sur les victimes, leurs familles et le pays en général, d'où nos intervenants appellent à une action commune, que chaque Burundais se sente concerné, interpellé à protéger ses enfants. Merci de nous avoir prêté une oreille attentive. Merci à mes collègues de la radio Inzamba et de la télévision Renaissance qui m'ont aidé dans la production du magazine. Au micro, vous étiez avec Inès Kakiza. À la prochaine.
C'était le magazine Défi de chez nous, produit par la Synergie des médias
RPA, Ijwi ry'Abanyagihugu, Inzamba, Agathe Kakawe et la télévision Renaissance. Défi de chez nous.